route et nous installons sous les arbres. La nuit est terriblement claire, autour de nous la ligne de crête brille sous la lune. Nous soufflons vainement sur nos doigts pour les réchauffer. Nous avons dû sortir un peu trop tôt. Nous aurions dû nous douter que, dans leur état d'épuisement physique et moral, ces abrutis seraient incapables de respecter les délais prévus. À moins qu'ils ne soient tous en train d'agoniser misérablement dans la neige, ce qui constituerait une preuve ultime de cohésion. Leur session de team building s'achèverait ainsi en apothéose. Je sais bien que, dans un sens, ces malheureux devraient m'inspirer davantage de compassion que de haine, mais je n'y peux rien. J'ai un peu honte. Les détester me réconforte. Et puis bien sûr, si les damnés étaient réellement dignes de compassion, s'ils suspendaient ne serait-ce qu'un instant leur participation active à leur propre damnation, ils seraient sauvés. Ils finissent par arriver, transis, haletants et dociles dans la brume bleutée de leur haleine mêlée. Nous surgissons de la forêt, nous chantons en polyphonie a cappella. Ils s'arrêtent pour nous écouter, ou au moins faire semblant. Je regarde la jeune femme blonde, les veines palpitantes sous la peau diaphane de ses tempes au creux de son cou. Elle ferme les yeux, quand Bézabé chante une berceuse très vieille, très simple et belle que le vent porte sous les grands pins. Dès que nous avons terminé, le groupe se dirige vers la bergerie, mais la jeune femme blonde reste un instant en arrière pour nous dire merci, et Bézabé lui sourit. L'organisatrice s'approche pour nous payer. J'ai le sentiment que nous recevons des gages, comme des domestiques, et c'est très exactement ce que nous sommes. Le lendemain, Philippe me demande si tout s'est bien passé. Non, lui dis-je, tout s'est passé comme prévu, certes, mais tout ne s'est pas bien passé. A-t-il au moins une idée de la nature exacte des stages de motivation organisés dans sa bergerie? Il hausse les épaules. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Il y a quelque chose chez Philippe, en plus d'un véritable talent pour exprimer son point de vue avec concision, que je ne peux m'empêcher d'admirer et qui relève de la force véritable. Son indifférence à l'ensemble du genre humain, au-delà du cercle de ses intimes, bien sûr. Indifférence si totale, si absolue qu'elle le rend pratiquement invulnérable. Mais moi, en rentrant cette nuit-là, je me suis promis que je ne jouerais plus de guitare. Et puis j'ai couché avec Bézabé. Ce n'était pas grandiose. Mais ça nous a fait du bien. On s'est dit qu'on ne le ferait plus, sauf quand la nuit à nouveau serait décidément trop froide et trop triste. Voici le récit véridique des circonstances dans lesquelles Pierre-Marie Romani devint un bandit. Récit que la journaliste n'aurait pas voulu entendre et que personne ne livra jusqu'à ce jour. À la veille de sa courte et sanglante carrière criminelle, Pierre-Marie Romani était encore un tout jeune homme aux longs cils de fille. La délicatesse de sa personne et de ses manières s'accordait mal à la rudesse du monde dans lequel il était né. Elle lui valait donc de constantes moqueries, auxquelles il n'osait pas répondre autrement qu'en riant avec une bonne humeur ostensible, comme à des marques un peu maladroites d'affection, bien qu'il en fût secrètement meurtri et songeât au moment où il pourrait échapper à la fréquentation des hommes, à la malignité de leurs offenses en se réfugiant dans la solitude. Il n'aurait pu se sentir plus seul, et plein de gratitude envers la délicieuse indifférence de la nature, quand cette fin d'après-midi de février 1932, alors qu'il attendait, fusil à la main, assis en lisière de forêt sur le haut plateau enneigé, le passage des bécasses. Une petite chienne épagneule, blanche et rousse, courait autour de lui, haletante et joyeuse. Des rafales de vent glacé arrachaient à la brume la silhouette des grands arbres, tandis que le soleil se couchait sur la montagne. Pierre-Marie caressa la chienne qui léchait ses doigts gelés. Derrière lui, les branches tressaillirent et il entendit bruisser des ailes battantes. Il épaula au moment où les oiseaux passaient à sa gauche, rectifia sa visée et tira au jugé deux fois. Il vit une ombre tomber. La chienne partit en courant. Elle revint quelques instants plus tard avec une bécasse morte dans la gueule qu'elle déposa à ses pieds en gémissant. Repartit à toute allure et en ramena une seconde dont l'aile avait été presque arrachée par les plombs brûlants. Pierre-Marie rangea les oiseaux dans sa besace. Il se mit en route, la chienne sur les talons. Une heure plus tard, la nuit était tout à fait tombée lorsqu'il arriva à la bergerie où il avait prévu de passer la nuit. Il alluma un feu, donna à la chienne les restes du repas de midi qu'il avait apporté pour elle et s'assit devant